Pour le moment, on joint Marjolaine Verville. Elle est présidente et cofondatrice de la Fondation Leucodystrophie, maman d'Alexis, également 17 ans, qui vit avec cette maladie génétique. Marjolaine Verville, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, on en parle parce que il y a eu quelque temps une très bonne nouvelle publiée du côté des chercheurs de l'Université de Montréal. On va y revenir, mais c'est un prétexte pour parler, parce que c'est bien de parler d'une maladie, d'en connaître les ressorts, mais aussi de voir toutes les lueurs d'espoir qui est autour des recherches autour de cette maladie. Mais tout d'abord, on veut comprendre de quoi on parle aujourd'hui. Marjolaine, c'est quoi la leucodystrophie?
Oui, la leucodystrophie, c'est une maladie qui se compare à la sclérose en plaques chez les adultes. En ce sens que c'est la même atteinte dans le cerveau, c'est la myéline qui est atteinte dans le cerveau des personnes adultes qui souffrent de sclérose en plaques. Mais chez les enfants qui souffrent de leucodystrophie, c'est la myéline aussi. Puis c'est pas exactement atteint de la même façon, mais disons que c'est la même partie du cerveau qui est atteinte. Puis ce qui est aidant pour comprendre de quoi ça a l'air un enfant qui souffre de leucodystrophie, mais quand on regarde un adulte qui souffre de sclérose en plaques, ben on a tous une image en tête de quelqu'un qui marche avec difficulté, puis si bien qu'un jour ils ont tellement de la misère à marcher, la marche devient tellement incoordonnée qu'ils sont en fauteuil roulant et ça dégénère toujours comme ça, ben ça ressemble beaucoup à ça chez les enfants en termes de symptômes.
Donc, perte de motricité, c'est une atteinte au cerveau. Donc, on comprend les atteintes neurologiques aussi. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations de cette maladie-là? Dans l'élocution, je pense, hein, aussi.
Oui, dans tout, en fait, parce que la gaine de myéline, on en a partout dans le cerveau, puis ça sert à toutes nos fonctions, hein. Donc, quand la myéline se désagrège, c'est comme la myéline, ça ressemble, ça se compare à... Quand un fil électrique, il y a toujours un isolant autour d'un fil électrique, là. Puis la myéline, c'est ça, c'est l'isolant autour des neurones, c'est ce qui permet la conduction du message. Donc, quand il manque d'isolant, bien, le message se conduit de façon plus lente ou plus difficile. Fait que ça peut atteindre toutes les fonctions. Tu sais, ça commence beaucoup, dans le cas de mon garçon, ça a commencé vers l'âge de 3 ans. Il marchait d'une façon un peu bizarre, puis il y en a qui me disaient, ben c'est pas normal. Moi, c'était mon premier, fait que je pensais que c'était comme ça. Les enfants de 3 ans n'ont pas toujours une marche très coordonnée.
Ouais.
Là.
Ouais.
Puis avec le temps, ben ça s'est mis à dégénérer et marcher de façon de plus en plus incoordonnée. C'est autour de cet âge-là qu'on a eu le diagnostic aussi. Qu'on croyait plus ou moins, là, parce que ben on y croyait, mais on voulait pas. En tout cas, c'est difficile à expliquer, mais ça paraissait très, très peu, tu sais, fait que c'était un peu invraisemblable qu'il allait avoir une maladie aussi grave.
Oui.
Mais c'est vraiment ce qui est arrivé vers l'âge de 5-6 ans. On a été comme obligé de le dire quand on arrivait dans une place publique, par exemple, parce qu'il marchait un petit peu comme une personne qui est sous l'influence de l'alcool. Il marchait un peu de façon très, très incoordonnée, fait qu'on devait l'expliquer. Puis en première année du primaire, il y a eu sa marchette. Il a eu son fauteuil roulant à l'âge de 10 ans. À l'âge de 11 ans, il pouvait plus s'alimenter parce que c'est aussi toutes les parties du corps qui permettent d'avaler fonctionnaient plus lentement, fait que c'était dangereux. La nourriture, au lieu de s'en aller dans l'estomac, s'en allait du côté des poumons. Donc, il pouvait plus s'alimenter, fait qu'à l'âge de 11 ans, il y a eu une gastrostomie, il était alimenté par le ventre. Il a arrêté de parler à peu près dans les mêmes âges parce que parlait de plus en plus avec de plus en plus de difficultés rendues vers 11 ans. Puis, il a arrêté de parler autour de ça. Je pense que ça peut être lié au fait qu'il mangeait plus. Donc, les muscles, la bouche, ils utilisaient moins. Déjà là, il était presque incompréhensible à cet âge-là aussi, là. Fait que ça atteint à peu près toutes les fonctions, là.
Donc, on comprend que les manifestations sont importantes, les atteintes le sont aussi. Des similitudes avec la sclérose en plaques, mais peut-être une des grandes différences, Marjolaine, c'est que la leucodystrophie, c'est beaucoup moins connu. Est-ce que ça s'explique? C'est qu'il y a moins de monde qui sont touchés au Québec et au Canada?
Oui, exactement. C'est un cas sur 5 000, hein. Donc, c'est une maladie rare. C'est peu un cas sur 5 000, mais c'est déjà beaucoup trop. Oui, c'est probablement pour ça que c'est moins connu que la sclérose en plaques, effectivement. Puis notre travail à la Fondation Leucodystrophie, ben c'est entre autres de faire connaître la maladie, surtout de financer la recherche de traitement. Oui. puis aussi de soutenir les familles d'un point de vue psychosocial en offrant des intervenants qui peuvent aider les familles à passer au travers des thérapies de groupe, thérapies individuelles, groupes d'entraide. Ça aussi, ça fait partie de notre mission.
C'est une maladie génétique. C'est important de le rappeler, de le comprendre aussi. Est-ce que vous et votre conjoint, Éric, vous saviez que vous aviez ce gène-là, que vous étiez porteur de ce gène-là?
Pas du tout. En fait, ça, il paraît que tout le monde est porteur d'un gène de gène de maladie rare. Là. Mm-hmm. Tout le monde en a. Il faut avoir la malchance de rencontrer quelqu'un qui a exactement le même gène de la même maladie rare. Donc, tous les deux, on est des porteurs sains. On n'est pas atteints, mais on est porteurs de ça, mais on ne savait vraiment pas. À chaque grossesse, on a une chance sur quatre d'avoir un enfant atteint.
OK.
On n'aurait pu jamais avoir d'enfant atteint et jamais le savoir. Mais ça a donné que ça n'a pas été le cas.
Est-ce qu'Alexis a des frères ou des sœurs?
Oui, Alexis a deux frères qui ne sont pas atteints de la maladie, mais il aurait pu aussi l'être.
Mais qui sont peut-être porteurs du gène, et ça, c'est une réflexion aussi à avoir.
C'est possible, oui. Puis grâce aux recherches qu'on a financées avec la Fondation, quand on a débuté il y a 10 ans, c'était vraiment de connaître la cause de la maladie, parce qu'il faut dire que les leucodystrophies, c'est un groupe de maladies, hein? Des leucodystrophies, il y en a autour de 20. Et à cette époque-là, quand on a commencé en 2006, il y avait 50% des cas qui étaient indéterminés. Même s'il y avait 20 formes, dans 50% des cas, on n'arrivait pas à trouver c'était quoi la forme. Et mon fils, c'était ça, et on savait pas quelle forme il souffrait. C'était une forme qui était encore inconnue à l'époque. On s'est mis à financer des recherches, puis on a trouvé un gène responsable de 4 nouvelles formes, 4 formes qui n'étaient pas connues. Aujourd'hui, on est autour de 20 à 30 % de formes inconnues. Ça a vraiment diminué. Fait qu'on a trouvé le gène responsable de la maladie de mon fils. Puis donc, maintenant, on sait sa forme de leucodystrophie, puis ça vient avec des tests génétiques qui n'existaient pas. Fait que maintenant, tous les gens qui ont cette forme-là, puis les 3 autres formes aussi qu'on a découvert, pas les chercheurs, ça permet maintenant aux familles, comme quand mes enfants, mes 2 autres fils vont être en âge d'avoir des enfants, ils vont pouvoir passer un test génétique. Fait que s'ils sont porteurs, puis leur conjointe ne l'est pas, il n'y a aucun problème. Ça se peut qu'ils soient sains aussi. Ou porteur, c'est les 2 possibilités. Puis si jamais leur conjointe est aussi porteuse, ils ont une chance sur 4, ça leur permet de faire un choix éclairé. S'ils décident d'avoir un enfant, ils font un choix éclairé.
Vous illustrez bien dans vos propos, Marjolaine, à quel point la recherche est le nerf de la guerre. Et l'argent aussi, parce que c'est l'argent qui intéresse les chercheurs. Lorsqu'on va sur votre site leucofondation.com, on voit qu'il y a des chercheurs associés à votre cause, à votre fondation. Vous êtes allé les intéresser, les chercher avec des fonds, j'imagine.
Oui, on a commencé à amasser de l'argent en 2006. En 2008, la première recherche a vu jour parce que les 2 premières années, on était en train de s'organiser, commencer à apprendre comment on faisait des levées de fonds. On a tout appris de zéro. Et puis, c'est en 2008 que j'ai rencontré Bernard Bray, qui était à ce moment-là dans un autre hôpital à Montréal, je me rappelle pas, mais je sais qu'aujourd'hui, il est associé à McGill. Là. À l'époque, il était à Notre-Dame. Ça vient de me revenir. Il était à l'hôpital Notre-Dame. Maintenant,
il est au Children, maintenant, oui.
Ouais. Puis, quand je l'ai rencontré en 2008, c'est là qu'il m'avait dit, j'ai découvert un gène responsable je pense que c'est la maladie de votre fils a cette maladie-là. Je suis convaincue, j'ai de l'argent de fond de tiroir, mais je suis convaincue que j'ai trouvé la maladie de votre fils et de bien d'autres. Puis là, c'est ça qui a été la première recherche qu'on a financée. Ça a été ça, le coup d'envoi. Il y avait une autre chercheure qui travaillait avec lui, qui est Geneviève Bernard, qui s'est intéressée énormément aux leucodystrophies. Elle a consacré sa carrière à ça depuis l'époque. Puis maintenant, elle a mis sur pied une clinique spécialisée sur les leucodystrophies à Montréal. Elle est un petit peu le point de référence pour soit les médecins, parce que les médecins connaissent pas tous cette maladie-là. Il arrive, par exemple, un médecin généraliste, il arrive avec une maladie comme ça, c'est très spécialisé. Fait qu'elle agit comme référence pour les médecins. Puis aussi, avec sa recherche, elle a des échantillons d'enfants de partout dans le monde. Elle est vraiment très impliquée avec un groupe international aussi qui font de la recherche sur les leucodystrophies. Fait que c'est ça qu'on a fait. On a amassé beaucoup d'argent pendant ces années-là pour financer la recherche de gènes au début. On a financé beaucoup d'autres recherches aussi, mais essentiellement, ce qu'on finance aujourd'hui, il y a deux avenues possibles. Il y a l'avenue classique, là, qui est le développement d'un médicament. Ça fait que ça, on finance ça aussi. Puis là, ce qu'on vient de financer récemment, c'est un projet très, très, très prometteur qui est avec des cellules souches. D'ici quelques années, d'ici, je dirais peut-être 2-3 ans, on devrait être capable d'injecter des cellules souches corrigées dans le cerveau des enfants.
Donc c'est cette recherche véhiculée ou menée plutôt par les chercheurs de l'Université de Montréal?
Oui. C'est la nouvelle recherche qui est en cours de démarrage présentement, là. Ça a donné beaucoup, beaucoup d'espoir parce que, tu sais, tout ce qu'on a financé auparavant, là, c'était des gènes, des protéines, des essais sur des souris. Mais là, pour la première fois, on est rendu à l'humain.
Oui.
Fait que c'est vraiment spécial en 10 ans, là. Moi, je trouve que ça a pris du temps, mais c'est sûr que pour la recherche, c'est court, 10 ans, mais quand tu es un parent, tu trouves que 10 ans, c'est très long. Enfin, on est rendu à ça. C'est en cours présentement. Ils vont prendre des échantillons sur les enfants là, parce qu'avant d'injecter, il y a toutes sortes d'étapes préalables. Ils doivent prendre du sang, de la moelle osseuse, faire des tests. Il y a plusieurs étapes.
Il reste des étapes. Oui, 10 ans, c'est long pour un parent qui voit son enfant malade souffrir parce qu'on doit le dire, la leucodystrophie, Marjolaine, a un impact, bien sûr, sur la qualité de vie en premier lieu, mais aussi sur la longévité de la vie. Mais en même temps, on sent et on peut même constater ses espoirs. On les suivra de près. On vous envoie, bien sûr, nos meilleurs voeux, Marjolaine Verville. Vous êtes présidente et cofondatrice de la Fondation Leucodystrophie. Salutations à Alexis, bien sûr. Merci.
Je vous remercie infiniment.
Au revoir.
Au revoir.